Chers amis, avant que nous ouvrions nos Bibles, j'aimerais vous donner deux ou trois informations. Il a été question tout au long de ces mois écoulés, y compris ici, dans cette église de l'opération Mère de France. Il faut que vous sachiez comment cela continue, c'est important, jusqu'au bout. Il faut savoir que les Nouveaux Testaments, les dossiers, les courriers personnalisés sont tous partis, normalement aussi tous arrivés, aux quelques 37 000 maires de France et également aux députés non-maires. Nous sommes très encouragés par les toutes premières réactions. Jusqu'à présent, il y a eu 132 réponses écrites de la part d'un certain nombre de maires, y compris des ministres et anciens ministres, des réponses parfois d'ailleurs même très touchantes. Et nous avons reçu notamment au siège de la FEF en région parisienne un courrier de Madame le maire d'Olivet. Parmi donc ces 132 réponses écrites, qui nous indiquent très touchés de l'envoi du Nouveau Testament, édité à l'occasion de votre 25e anniversaire, vous en remercie très chaleureusement. Alors je vous encourage à rattraper la balle au bon pour engager un travail de suite en vous servant de ce matériel. Nous n'allons pas passer du temps maintenant à évoquer la quantité extraordinaire de miracles qui sont liés à cet effort. Je vous dirai par exemple simplement que les PTT ont battu tous les records de générosité, puisque la poste qui était chargée de l'expédition nous a prêté tout son personnel, gratuitement, pendant plusieurs jours. Le receveur des PTT a même pris des congés et a utilisé ces congés pour aider avec sa femme, ses enfants, je crois sa belle-mère, le transport des colis. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. 20 tonnes de Nouveau Testament, 16 palettes de carton d'expédition, 30 tonnes de courrier, 4 camions, 1864 sacs postaux, 1 km de ficelle pour nouer les sacs, c'est intéressant. Le montant de l'envoi pour la poste représente 50 ans de chiffre d'affaires annuel de cette poste dans cette catégorie de colis. Nous pourrions ainsi continuer, mais Dieu a été remarquablement fidèle. J'ai reçu des courriers, j'ai sous les yeux ici un courrier, je vous le livre parce qu'il est très intéressant. Ça vient de l'Isle-sur-Sorgue. L'Isle-sur-Sorgue est à proximité de la fontaine de Vaucluse, si vous voulez, dans la région de Carpentras. Et voilà ce qui nous est dit ici. Je voudrais vous informer de l'enthousiasme du maire de notre ville, de l'Isle-sur-Sorgue, à la réception du Nouveau Testament. Selon ce qu'il a dit à l'un des responsables de notre église, qu'il a lui-même hélé dans la rue, ce Nouveau Testament lui a redonné envie de lire la Bible qui lui avait été donnée il y a quelques années. Il a été touché de la précision, de la beauté du volume, ainsi que du dossier de presse qui l'accompagnait. Bien que nous ne soyons pas affiliés à la FEF, je pense que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous poursuivions notre contact avec lui à ce sujet. Il est déjà venu au moins à deux réunions d'évangélisation dans le passé. Auriez-vous une objection à ce que les maires des villages voisins de l'Isle-sur-Sorgue soient visités aussi? Inutile de vous dire que nous n'avons aucune objection, cela va de soi, bien au contraire. Et puis alors la dernière question qui est remarquable, de bon sens, est-il possible encore de participer financièrement à cette opération? À quoi nous avons dit oui, 10 fois oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. J'ajoute que Hier est tombé un fax qui nous dit qu'en date du 3 décembre, nous avons entre les dons et promesses reçu 762 503 francs 66 qui couvrent environ 24 500 dossiers, soit près de 66% des besoins à couvrir. Et il faut savoir que nous avons devant nous deux échéances qui sont encore remarquables. C'est la première fois à notre connaissance que les PTT font une telle proposition. Ce n'est pas du tout dans la mentalité de ce service, mais qui est privatisé maintenant à bien des égards. Et ils n'ont pas réclamé leur dû 4 jours avant l'expédition, comme cela se fait selon les normes habituelles, mais ils nous ont eux-mêmes proposé de faire 2 versements, l'un aux alentours du 15 décembre, c'est tout près, de 240 000 francs, et un second à la même date en janvier, de la même somme, simplement pour les frais d'expédition. Donc nous sommes devant des échéances, le Seigneur est fidèle, mais je vous encourage à ne pas baisser les bras comme si tout était réglé. Nous sommes encore dans le combat. C'est à la fois le combat du paiement de toutes les factures qui continue à venir, et puis aussi tout le combat du travail de suite. Maintenant, la balle est dans le camp des églises. Et j'espère que, ici aussi, à Olivet, vous aurez à cœur de prendre contact avec les maires du coin. Moi-même, je viens d'écrire toute une série de courriers à une douzaine de maires autour de Chevilly, de manière à pouvoir poursuivre un travail engagé avec eux. Nous croyons que des hommes et des femmes qui sont en position d'autorité dans notre pays vont véritablement connaître Jésus-Christ. Nous le croyons. Et nous prions dans ce sens. Alors je tenais à vous le dire pour que vous puissiez à la fois partager notre joie, notre foi, notre espérance, et que dans quelque temps, nous ayons encore d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. C'était là la première des informations. La deuxième, j'essayais de savoir comment j'allais vous la présenter, parce qu'il faut être au moins aussi intelligent que les gens de ce siècle. Lisions-nous hier soir, nous allons relire ce texte, et je pensais au bonheur des mamans quand elles viennent de mettre au monde un enfant. C'est le plus beau de toute la terre, et cela va de soi. Et bien entendu, elles sont tellement heureuses de présenter bébé. Elles présentent bébé à qui veut le voir, et même à qui ne veut pas le voir. Et c'est bien. Alors, je ne suis pas une maman, je suis un papa, et je suis le papa de 3 enfants. Je vais me dire, mais c'est curieux, vous en avez 4. Oui, mais je veux parler d'autres enfants. Je veux parler des 3 livres que Dieu m'a donné de pouvoir écrire jusqu'ici. Et je voudrais quand même que vous sachiez, en dehors des réunions du mardi soir, que le 3e bébé est né il y a 1 mois maintenant, qu'il est en bonne santé, il se porte bien, il porte un prénom assez long, c'est un prénom de quelques mots, de l'amertume à la grâce. Il part très rapidement, puisque 600 exemplaires au moins sont déjà partis durant ce mois-ci. Le voilà, de l'amertume à la grâce. Et je ne peux pas faire autrement que de vous le présenter, même si j'en suis l'auteur. Je veux être au moins aussi sage que les gens de ce siècle, qui sont avisés. D'ailleurs, ça vaut le coup d'avoir cette sagesse. Lors de mon séjour en Martinique, dans cette église de Fort-de-France, nous avons annoncé soir après soir la sortie de ce livre et aussi l'existence des 2 premiers, si les minutes m'étaient comptées, et fidèle quoi qu'il en coûte. Et tenez-vous bien, je suis reparti avec une commande de 253 exemplaires qui sont déjà partis là-bas, et tenez-vous bien, qui sont déjà payés, ce qui est merveilleux pour nos amis des Antilles. Alors, je pense que vous avez aussi envie de lire, vous avez aussi envie de faire des cadeaux. Alors, je vous encourage. Faites au moins le cadeau de quelqu'un que vous connaissez, qui essaye de ne pas écrire des hérésies. Surtout que le sujet, je crois, est vraiment d'actualité. Il traite de l'histoire d'une belle-mère. Il y a des belles-mères qui sont un exemple dans les Écritures. Il s'agit de Naomi ou de Noémie. Et une belle-mère qui a fait une triste expérience au départ, qui s'est éloignée de son Dieu. Et toute la première partie de ce livre de 207 pages traite de ce qu'on appelle le mécanisme de la vie rétrograde. Comment devient-on rétrograde? Par quoi cela se traduit-il dans notre vie et dans la vie de notre entourage? Puis la deuxième partie du livre, qui est le contrepoids bienfaisant et encourageant, comment on revient au Seigneur? Le réveil spirituel, personnel, ce qu'en disent les Écritures, au travers en particulier du livre de Ruth, mais aussi du livre d'Osée, Jérémie et d'autres écrits essentiellement de l'Ancien Testament, puisqu'il faut savoir que le thème du réveil est un thème largement développé dans l'Ancien Testament et dont les principes sont repris dans le Nouveau Testament. Voilà, il est à votre disposition. J'ai fait ma petite collaboration avec la librairie L'Évangile pour tous, que je vous encourage à continuer à fréquenter. C'est une bonne librairie évangélique. Voilà. Nous allons maintenant lire deux textes dans les Écritures. Deux textes, le premier dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 18. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 18. Un texte qui évoque de manière directe le thème qui nous intéresse durant ce week-end. Je lis au verset premier. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier. Pays d'olivier, de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dans le Nouveau Testament, nous reprenons le texte de Luc au chapitre 16, déjà lu hier soir. Luc chapitre 16, les 13 premiers versets. Luc 16, versets 1 à 13, l'une des paraboles de Jésus, une des paraboles d'ailleurs qui sont parmi les plus difficiles à comprendre, mais très importantes aussi. Je lis au verset 1er, Luc 16, verset 1er, Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler la terre ? Je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle, ou le gérant de malhonnêteté, de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, littéralement avec le mammon d'injustice, pour qu'ils vous reçoivent dans les tentes éternelles quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ou deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. J'ai laissé entendre, il y a un instant, que cette parabole de Jésus n'était pas facile à comprendre. Il y a ici et là quelques mauvais os, durs à avaler. Comment comprendre, d'ailleurs c'est intéressant, parce que ce matin dans la voiture en venant ici, un de nos enfants m'a interpellé et m'a dit, « Papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la parabole que nous avons lue hier soir. » Effectivement, c'était tout à fait la question qui devait être posée. Comment comprendre l'attitude d'un patron qui félicite un économe infidèle, un gérant malhonnête, trompeur ? Verset 8, le maître loua le gérant trompeur de ce qu'il avait agi en homme avisé. Comment cela est-il possible ? Alors que manifestement, l'économe lui fait encore perdre de l'argent. Il faut probablement comprendre, je ne dis pas que c'est certain, mais c'est la solution qui me satisfait après des années de recherche et de lecture de toutes sortes de possibilités de compréhension du texte. Mais c'est ce que je vais vous dire qui me satisfait le plus lorsque l'on essaie de comprendre cette parabole à la lumière des pratiques commerciales de l'époque où le texte a été rédigé. Tout d'abord, il faut savoir qu'il était interdit aux Juifs de prêter de l'argent avec un intérêt à leurs compatriotes, pas aux étrangers, mais à leurs compatriotes. Nous aurons sans doute d'ici cet après-midi l'occasion d'y revenir dans un autre cas. Or, tout semble-t-il dans les versets 1 à 8 tourne autour d'un intérêt. Je m'explique. Les 50 mesures de différence dont il est question au verset 6, par exemple, « Tu dois 100 mesures d'huile à mon maître, eh bien, prends ton billet et écris 50. » Il y a donc 50 mesures de différence. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la lumière des transactions de l'époque, des pratiques commerciales, il semble que ce soit l'intérêt demandé au départ par l'économe. Et en général, l'économe demandait cet intérêt illégal, usuraire si vous voulez, à l'insu de son maître. Parfois il y avait complicité et chacun en prenait une petite partie. Mais ça pouvait être aussi carrément complètement à l'insu du maître. Il faut savoir que à cette époque, quand quelqu'un venait emprunter à une personne riche une certaine somme, on fixait à tout ce qui était emprunté ce qu'on appelle une contre-valeur. Une contre-valeur en huile ou en blé. Ici, par exemple, dans ce texte, pour le blé, il est question, au verset 7, de 80 mesures de blé. Et puis, parce qu'on n'était pas plus honnête qu'aujourd'hui, très souvent, on ajoutait l'intérêt. Dans le cas du blé, ici, au verset 7, il est question de 20 mesures de blé d'intérêt. Et le titre de remboursement était libellé en huile ou en blé. La transaction qui était faite était usuraire, elle était illégale, elle était en flagrante contradiction avec la loi juive, mais bien entendu, le titre, le papier ne l'indiquait pas. Et tout pouvait laisser croire à n'importe qui que c'était, ou à un contrôleur si vous voulez, que c'était bien 80 mesures et 100 mesures qui avaient été empruntées ou leur équivalent. Et que se passe-t-il ici? Eh bien, lorsque l'intendant est coincé et qu'il doit faire ses valises, en allant voir les créanciers de son maître, qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, écoutez, on va s'asseoir et vous allez en quelque sorte réécrire vos titres de telle sorte qu'ils ne portent plus d'intérêt. On va détruire les originaux et on va réécrire des titres qui correspondent à une transaction sans intérêt, c'est-à-dire que j'accepte de perdre les intérêts qui étaient un vol. Et si jamais le maître était dans le coup, bien entendu le maître allait perdre sa part d'intérêt, mais vous comprenez fort bien que il savait très bien qu'il n'était pas en règle dans cette situation. Donc, le patron n'était pas vraiment lésé, puisque les intérêts c'était du vol. Il allait entrer dans ses fonds, 50 et 80, et l'emprunteur, bien sûr, lui aussi, était tout heureux. Et en même temps, l'emprunteur reniflait qu'il y avait eu une malhonnêteté là en dessous, vous comprenez? Donc il était bien heureux, finalement, que le problème se règle. Tout le monde y trouvait une certaine satisfaction. Maintenant, si cette explication ne vous était pas donnée, ça ne changerait rien à l'interprétation. Vous avez des croyants qui, pendant toute leur vie, lisent ce texte sans jamais le comprendre à la lumière des pratiques commerciales de l'époque. C'est bon quand on peut le faire. Mais est-ce que ça veut dire que, pour autant, si l'on n'a pas ces traces des pratiques commerciales de l'époque, on est condamné pendant toute sa vie à interpréter cette parabole de travers? Heureusement non, hein. Heureusement non. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que lorsque le maître loue l'économe infidèle, pas un seul instant le texte nous dit qu'il le loue pour sa malhonnêteté. Ça, c'est ce que nous sommes tentés de croire. Il le loue simplement d'avoir agi en homme avisé. C'est-à-dire là où il le félicite. C'est pas pour sa malhonnêteté, mais c'est d'avoir, dans sa situation de crise, utilisé ses méninges pour réfléchir de manière à s'en sortir le mieux possible. Vous comprenez? C'est ça la grande leçon, de laquelle Jésus va tirer un enseignement quant à notre nécessité d'être avisé. En tant qu'enfant de lumière, il a été avisé selon les règles des ténèbres. Nous devons être avisés selon la loi de la lumière. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de donner un blanc-seing et de féliciter pour des attitudes malhonnêtes et ténébreuses, mais simplement ce qui est remarquable, c'est la réflexion personnelle de cet homme qui analyse bien la situation, qui en tire ensuite des conclusions pour se préparer un juste avenir. Et Jésus va dire en quelque chose: écoutez, réfléchissez, enfants de lumière, gérez vos situations présentes en préparant comme il faut votre avenir. Si vous gérez mal votre présent au niveau de la gestion des biens matériels sur la terre, eh bien, mes amis, vous vous préparez un avenir qui ne sera peut-être pas ce qu'il aurait pu être, puisque je l'ai dit hier soir, dans le ciel nous serons tous heureux, mais il y a quand même un enseignement sur les récompenses et les responsabilités dans l'au-delà. Donc, notre manière de gérer notre vie chrétienne au niveau de l'argent, de l'utilisation des biens, va avoir des répercussions dans le domaine spirituel. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a un autre petit problème qui se pose dans ce texte. Il est au verset 9, lorsque précisément Jésus dit: « Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes ou le mammon d'injustice, puisque le terme araméen, mammon, est l'équivalent du mot richesse. Les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles, dans les tentes éternelles, quand elles viendront à vous manquer. » Qu'est-ce que c'est que ces richesses injustes? Ce sont tout d'abord les richesses terrestres dont l'homme se croit propriétaire, alors qu'il n'en est qu'intendant et qu'il utilise indépendamment de Dieu, le vrai propriétaire. Ça, c'est ce que nous avons fortement souligné hier soir. Nous allons y revenir après ces quelques explications. Elles sont injustes pourquoi? Tout d'abord parce qu'elles sont injustement acquises. Que d'acquisition malhonnête des richesses. Le 28 août 1990, j'étais au guichet de la Banque de France à Orléans et Emmanuel était à côté de moi. Et Emmanuel a commencé à ouvrir d'énormes yeux. lorsqu'il a vu deux hommes qui étaient en train de déposer des liasses impressionnantes de billets de 100 francs. Impressionnant. Je pense qu'il s'en souvient. Et nous avons un peu discuté ensemble au sujet de ces liasses, parce que nous nous sommes bien entendu posé la question, mais qui est en train de faire ces transactions? Et à un moment donné de notre petite conversation, en attendant de prendre la place, j'ai fait remarquer à Emmanuel qu'on pouvait avoir ainsi beaucoup de sous sans être très malheureux. Et je trouve que ce que je disais à Emmanuel n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Parce que un des deux hommes qui était en train de faire ces transactions et de donner cet argent s'est tourné vers nous et a approuvé. Ce qui m'a beaucoup étonné. Mais j'ai mieux compris qu'il approuvait lorsqu'il nous a dit que cet argent était tout d'abord pour l'État français. Et il était pour l'État français tout simplement parce que c'était l'argent des méchants. Et il nous a expliqué que c'était simplement l'argent d'amendes, de procès, etc. N'est-ce pas? Tout ce qui avait été ramassé dans toutes les poches suite à des malversations, à des PV, à tout ce qui vient de notre méchanceté naturelle. Un autre exemple intéressant que j'ai trouvé récemment concerne un échantillonnage de 135 billets de banque provenant de 12 villes américaines qui ont été soigneusement examinées par deux toxicologues des services de santé d'un comté en Floride. Et ces deux toxicologues ont trouvé des traces de cocaïne sur tous ces billets, sauf sur 4 qui sortaient de l'imprimerie. Et l'un des toxicologues expliquait que certains utilisent les billets roulés pour priser la cocaïne ou les billets pliés pour la transporter. Les particules de drogue qui y restent attachées passent sur d'autres billets dans les tiroirs des caisses enregistreuses pour finalement atterrir entre les mains des gens et les fibres du papier absorbant et retenant la cocaïne, les billets qui ont été à son contact peuvent en garder pendant longtemps les traces. Donc chaque fois que vous lirez cette expression « richesses injustes », pensez tout d'abord à des richesses qui sont injustement acquises. En voilà deux exemples concrets de notre époque. Ensuite, ce sont des richesses qui sont injustement réparties. Quand on voit les différences absolument énormes dans le monde d'aujourd'hui entre le riche et le pauvre, combien le fossé se creuse de plus en plus et à une allure vertigineuse entre les plus riches de notre monde et les plus pauvres de notre monde. Et puis enfin, ces richesses sont injustement possédées, ça je l'ai déjà souligné tout à l'heure, tout simplement parce qu'elles ne sont pas à nous en réalité, mais elles sont à Dieu. Alors il est dit qu'il faut se faire des amis avec ces richesses injustes que nous manipulons tous, vous et moi, quotidiennement. Faites-vous des amis dans les tentes éternelles. Ah mes amis, vous qui avez participé, par exemple, à l'opération Mère de France, vous vous êtes fait des amis avec les richesses injustes. Parce que manifestement, il y a dans ce verset 9 notamment une question d'évangélisation. Une bonne évangélisation par une gestion des biens du Seigneur qui le glorifie, qui touche des cœurs. Et une fois de plus, et je le dis surtout vis-à-vis de ceux qui étaient là hier soir et avant-hier soir, et puis c'est tout neuf pour les autres, nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de viser le ciel dans l'utilisation de nos biens. Et simplement là, Jésus dit, eh bien voilà, une manière de viser le ciel dans l'utilisation de nos biens, qui sont des biens injustes, nous l'avons expliqué, eh bien c'est notamment de nous faire des amis qui vont ensuite nous recevoir dans le ciel. Et quelqu'un est venu me voir hier soir après la réunion pour m'expliquer justement Comment il avait été sauvé? Parce que des croyants s'étaient fait déjà sur la terre de lui un ami en utilisant leurs richesses injustes pour l'hospitalité, pour le soutien quand il était en difficulté, que c'était ça finalement qui avait touché son cœur et l'avait amené à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ne pas être une occasion de chute, mais toucher les cœurs à salut, faire comme Jésus, dont il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, et il l'a fait pour faire aussi de nous ses amis. Et lui a accepté de se dépouiller volontairement, non pas de richesses injustes, mais des richesses dont il est le propriétaire, de toutes les richesses de la gloire céleste, de toutes les richesses du cosmos tout entier. Il a accepté de se dépouiller de ce qui lui était le plus précieux, de manière à ce que dans notre pauvreté, nous soyons enrichis et que nous soyons sauvés. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, peut-être y viendrons-nous cet après-midi. Et puis vous avez les versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà encore un texte intéressant puisqu'il nous rappelle la nécessité d'être fidèle dans l'administration des biens terrestres. Les biens terrestres sont les moindres choses. Les biens terrestres sont les richesses injustes. Si nous voulons que notre Dieu nous confie dans le ciel l'administration des biens célestes, il importe que nous soyons fidèles dans l'administration des biens terrestres. C'est par exemple la parabole des mines dans Luc 19, au verset 11 à 27, lorsque le maître dit, eh bien toi, puisque tu as bien géré ces mines, reçois le gouvernement de 10 villes. Et c'est important, ça cela signifie notamment que le manque de fidélité, d'honnêteté, d'intégrité dans la gestion des biens que Dieu nous confie est pour de nombreux croyants un obstacle à la bénédiction. Un obstacle à une vraie plénitude. Un obstacle à la réception des richesses spirituelles de Dieu. Et ce texte souligne très fortement qu'il n'y a pas de frontière entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Nous avons tort de vouloir cloisonner à tout prix. C'est la même chose en ce qui concerne la vision que nous avons du métier que nous exerçons. Certains pensent que leur métier est un boulet qu'ils doivent traîner avec eux parce que tout simplement on est sur la terre et qu'il faut gagner sa croûte. Et ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent que nous exerçons aussi notre métier pour la gloire de Dieu. Qu'il s'inscrit dans notre vocation. Et que notre métier est un tremplin de témoignages extraordinaires. De toutes sortes de manières. Et nous n'avons pas le droit de faire une séparation entre le temps que nous donnons à Dieu le dimanche au cours du culte ou dans les réunions spirituelles de la semaine, et le temps que nous passons ou au foyer, ou dans les transports en commun, ou sur les bancs de l'école ou de l'université, de la faculté, ou dans une classe, ou dans notre entreprise. Il n'y a pas dans les Écritures de frontière entre vie matérielle et spirituelle. Vous savez comment se termine le livre du prophète Zacharie ? Il est dit qu'en Israël, le jour viendra, et nous croyons que ce jour est de plus en plus proche, même si l'horizon doit s'assombrir encore terriblement pour ce peuple avant que cela ait lieu, mais le jour viendra où sur les chaudières de Jérusalem et sur les clochettes de chevaux de Jérusalem, on pourra lire l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où dans l'histoire de ce peuple qui est tellement éloigné de Dieu pour une grande majorité de la population d'Israël aujourd'hui, il arrivera un moment où on gérera les biens matériels, le quotidien, d'une manière spirituelle. Où vraiment chaque chose, les plus communes, les plus courantes, seront gérées pour le Seigneur. Avec lui, sainteté à l'Éternel. Elles seront séparées pour lui. C'est intéressant parce que les clochettes des chevaux, c'est quoi? Ben aujourd'hui, c'est notamment, ce sont les klaxons de nos voitures. Hein, les clochettes des chevaux servaient à indiquer qu'un cheval était là, engagé sur la route, notamment, n'est-ce pas, qu'il fallait donc faire attention. On voit encore ça dans certains pays de l'Est, n'est-ce pas? Nous avons vu les clochettes des chevaux justement au fin fond de la Pologne, qui étaient des indications, attention, quand on circule. Alors, c'est beau, n'est-ce pas, quand on gère sa voiture personnelle ou la voiture de la collectivité pour laquelle on travaille, en pouvant inscrire sur le klaxon « Sainteté à l'Éternel ». On est compte. Et puis les chaudières. Ah ben les chaudières, ça c'est d'une manière toute particulière pour les sœurs. Oh, les frères aussi. Hein. Les sœurs, parce que ce sont les cocottes minutes, ça. Hein. Ce sont tous les ustensiles de cuisine qui permettent de préparer la bonne soupe et puis tout ce qu'on va manger tout à l'heure, n'est-ce pas? Et pouvoir inscrire sur ce matériel de travail usuel, quotidien, sainteté à l'Éternel, vous rendez compte? Gérer les biens en disant « Seigneur, ils sont à toi. Je le fais pour toi, ils t'appartiennent. » Vous rendez compte la conclusion de ce livre de Zacharie. La tendance naturelle du gérant au fil des années, c'était l'âge de considérer que ce qu'il administre est sa propriété. Et il va donc prendre de plus en plus de liberté et chercher son avantage plutôt que celui de son maître. Et nous sommes tous, vous et moi, guettés par ce danger. Vous savez, prenons un exemple. On construit une magnifique chapelle, une magnifique salle comme celle-ci. Tant qu'on est dans le programme de construction, ou que le bâtiment est tout neuf, que les événements viennent d'avoir lieu, on loue le Seigneur. On bénit Dieu, on se rend compte que c'est à lui tout ça. On y fait très attention au début, et puis avec le temps qui passe. Hein, c'est incroyable ce que notre mentalité peu à peu change vis-à-vis de l'utilisation de ces biens que le Seigneur nous a confié. Et c'est pourquoi le texte se termine au verset 13 par cette mise en garde et constatation en même temps. Nul domestique ne peut servir, et là servir en tant qu'esclave, c'est-à-dire de la manière la plus forte qui soit, de Seigneur. C'est pas possible. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu. Et maman, il faut choisir. Alors nous avons hier soir évoqué cette dimension pratique de la gestion en intendant fidèle. Et nous avons dit tout d'abord que Dieu était le propriétaire de tout comme créateur. Ensuite, nous avons dit que Dieu était propriétaire du croyant en particulier, à double titre. Non seulement en tant que Dieu créateur, mais en tant que Dieu racheteur, rédempteur, sauveur. Nous sommes vraiment pleinement et tout particulièrement en tant qu'enfant de Dieu à la disposition de notre Seigneur. Et puis Dieu est propriétaire réel des biens du vrai disciple. De celui qui, volontairement, délibérément, par choix personnel, réfléchit, a tout mis à sa disposition. Parce que le Dieu puissant, le Dieu fort, comme dit le prophète Ésaïe, le Dieu parfaitement souverain, le Dieu qui a tous les droits, nous donne une liberté de choix. Il ne veut que des gestionnaires volontairement consacré. Et le vrai disciple renonce volontairement à tout ce qu'il possède, non en devenant un clochard par une distribution qui n'est pas sage, mais en donnant tout au Seigneur, en mettant tout volontairement à la disposition de son Seigneur. Et nous sommes, bien sûr, ensuite, à partir de là, entrés dans la signification pratique. En nous posant une première question, notre budget personnel ou familial est-il établi dans cette optique-là ? Nos achats et nos dépenses sont-ils soumises à la volonté de Dieu ? Cherchons-nous à éviter les achats inutiles, superflus, trop rapides ? Cherchons-nous à éviter au maximum le gaspillage ? Nous avons parlé de la nourriture que l'on jette. Nous aurions pu évoquer les toilettes somptueuses. L'esclavage de la mode ruineuse, ceci nous est dit dans 1 Timothée 2:9, 1 Pierre 3:3, dont il faut relever le principe. Il est question dans ces textes notamment des tresses. Les tresses étaient un signe de luxe à cette époque, ne le sont pas aujourd'hui. Vous voyez qu'il faut toujours faire attention dans notre approche des Écritures pour en retenir le principe et éviter de devenir légaliste au point de condamner celui qui a telle chose parce que la Bible dit ceci. Eh, mes amis, il y a détresse quand on accuse quelqu'un au niveau de ses tresses, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et j'aimerais ici ajouter quelque chose. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse. L'excès inverse qui voudrait que les croyants vivent dans une négligence, voire même dans un style 1900. Et je crois que quand on a soif de servir le Seigneur, quand on a soif de marcher avec lui, quand notamment une femme de Dieu a soif de vivre dans la modestie, dans la pudeur, dans la crainte du Seigneur, elle peut être tentée d'aller à l'extrême. Et finalement, de déshonorer le Seigneur par un vêtement, par une négligence de sa personne qui sert finalement la puissance des ténèbres. Vous savez, il faut être équilibré dans la vie. Et la Bible nous montre qu'il faut être équilibré. Et inutile de dire qu'il est des hommes, des maris, dans certaines familles chrétiennes, qui ont pu être tentés par l'infidélité parce que véritablement leur femme, au nom de sa fidélité au Seigneur, n'avait absolument plus rien d'attrayant. Mettre un joli tablier, se coiffer de manière harmonieuse, honore aussi le Seigneur. Nous devons trouver un juste équilibre dans la présence de Dieu entre les excès dans le domaine des cosmétiques, c'est le terme grec qui est utilisé dans ces deux textes d'1 Timothée 2:9, 1 Pierre 3:3, cosméo. Nous devons trouver le juste milieu dans la présence de Dieu entre ce qui attire, ce qui séduit, et qui donc touche à des domaines totalement superficiels et dangereux, et de l'autre côté, à une sorte de mépris de sa personne, qui engendre tout autant de problèmes. Et j'ai relevé à cet égard un texte de Jean Calvin, le fameux réformateur qui est très très juste à ce sujet, et je vais vous le livrer. Écoutez ceci. L'Écriture nous donne des instructions précises sur le bon usage des biens terrestres, question à ne pas négliger quand on veut organiser correctement sa vie. En effet, si vivre est une obligation, il nous faut aussi utiliser les moyens nécessaires à cette vie. D'autre part, nous ne pouvons pas rejeter ceux de ces moyens qui semblent plutôt satisfaire nos goûts sans être tout à fait indispensables. Il faut donc savoir observer un juste milieu et en toute loyauté user de ces moyens, tantôt par nécessité, tantôt pour notre plaisir. Certains hommes de bien, de saints personnages au demeurant, constatant que l'intempérance et les excès avaient tendance à se déchaîner sans limite, ont fait une obligation de s'abstenir de tout ce dont on peut se passer. Aussi, selon eux, serait-il à peine permis de consommer autre chose que du pain bis et de l'eau. En revanche, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui cherchent un prétexte pour justifier leur manque de retenue dans leur consommation des biens de ce monde. Ils ouvrent ainsi la route à toute démesure. Ne tombons pas d'un extrême dans l'autre. Tenons le bon équilibre et tenons-nous-y fermement. Partons du principe suivant. L'usage des biens donnés par Dieu n'est pas répréhensible quand il va dans le sens voulu par le Créateur lui-même. Il les a créés, ces biens, à notre avantage et non à notre perte. On restera par conséquent dans le droit chemin si l'on ne perd pas de vue cet objectif. Si l'on considère à quelle fin Dieu a créé les aliments, on découvrira qu'il a tenu compte non seulement de nos besoins, mais de notre agrément et de notre plaisir. Il en est de même pour nos vêtements. Ils sont nécessaires, c'est vrai, mais Dieu les a voulus élégants et dignes de nous faire honneur. Il a donné aux herbes des champs, aux arbres, aux cultures leur utilité respective, mais aussi leur beauté et la richesse de leurs odeurs. S'il n'en était pas ainsi, le psalmiste ne compterait pas au nombre des bienfaits de Dieu le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et les Écritures ne rappelleraient pas pour célébrer la bonté de Dieu que c'est lui qui a fait don de tout cela aux hommes. Le Seigneur, dites-moi, aurait donné aux fleurs leur beauté qui charme nos regards et des parfums délicieux qui captivent notre odorat, et il nous serait défendu d'être sensibles à leur beauté, à leur parfum, et quoi ? N'a-t-il pas créé la gamme des couleurs afin de les rendre plus attrayantes les unes que les autres ? N'a-t-il pas conféré à l'or et à l'argent, à l'ivoire et au marbre une valeur qui les place avant les autres matériaux, pierres ou métaux ? Enfin, n'a-t-il pas mis à notre disposition beaucoup de choses qui ne sont pas absolument nécessaires ? Laissons de côté cette philosophie inhumaine qui n'accorde à l'homme aucun usage des choses de la création, s'il n'est dicté par la nécessité. Non seulement cette philosophie a le grand tort de nous interdire la jouissance légitime des fruits de la bonté de Dieu, mais elle a pour seul résultat de rendre l'homme semblable à une souche de bois en le dépouillant de toute sensibilité. J'aime ce texte. Parce qu'il rétablit l'équilibre dans nos vies. Et il s'appuie sur un certain nombre de textes des Écritures qui sont si clairs. Quand on pense au poème, et j'utilise là le terme grec, le poème de la création de Dieu, dont il est question dans Romains 1, la beauté de la création. Quand je pense à la manière dont Dieu sait être un père à notre égard, combien de fois Dieu m'a-t-il surpris en me faisant des cadeaux que je ne me serais jamais offert. Au point même que j'ai dû interroger le Seigneur en disant, vraiment, mais c'est vraiment de toi, ça. Est-ce que tu crois que je peux vraiment l'utiliser ? Et le Seigneur a dû me rappeler que c'était ses cadeaux. Parce qu'il est un père et nous ne donnons pas simplement à nos enfants le strict nécessaire. Si nous aimons nos enfants, bien sûr qu'il y a des temps de crise où nos enfants doivent comprendre que ben il faut faire avec ce qu'on a. Mais nous essayons aussi, pour dire notre amour à nos enfants, de faire les petits extras, de faire les petites surprises, d'acheter aussi le petit bouquet de fleurs parfumé à notre conjoint pour lui dire un petit signe de notre amour, n'est-ce pas ? Alors faisons attention dans nos relations conjugales, au sein du couple, en tant que croyant, de ne verser ni dans un extrême, ni dans un autre. D'ailleurs, il existe un proverbe chinois qui dit qu'il arrive parfois que celui qui dépense soit le sage et que celui qui économise soit le fou. acheter le moins cher peut être une forme d'avarice et de gaspillage. Parce que la qualité, ça compte aussi, vous ne croyez pas? Quand un croyant, sous prétexte de vouloir mettre beaucoup en réserve pour le Seigneur ou pour d'autres choses, fait toujours les achats de produits au plus bas prix, est-il sûr d'y gagner à long terme? Ne vaut-il pas mieux, dans bien des situations, chercher tout de même, ne fût-ce que la qualité moyenne? Il n'y a-t-il pas des possibilités pour choisir entre le prix le plus bas et le prix le plus haut à l'intérieur d'une gamme de produits? Voilà des choses auxquelles nous devons réfléchir. Attention à la forme de gaspillage subtil de l'accumulation de l'argent et des biens sans que nous ayons pour autant un but précis. Dans Deutéronome 17, il est dit que le roi ne devait pas accumuler les biens. Ça, c'était le grand problème des rois. Chapitre 17, versets 16 et 17. Et je parlais du problème de Salomon avec ses richesses, et je soulignais hier que le problème de Salomon n'était pas dans le fait qu'il était riche. Les richesses de Salomon étaient un cadeau de Dieu. Le problème de Salomon a été dans l'accumulation de ses richesses, dans une mauvaise gestion de ses richesses. C'est ça le drame dans nos vies. Je bénis Dieu pour les mécènes que Dieu donne à son Église. Vous savez que certains livres du Nouveau Testament ont été rédigés, répandus, multicopiés, parce que des mécènes se sont levés. Certainement que Théophile, dont Luc, le médecin, parle, était un de ces mécènes qui a accepté de payer en quelque sorte de sa poche et les parchemins et le transport et tant d'autres choses pour que l'évangile, selon Luc, se répande. Mais les mécènes, pour le Seigneur, ont cette qualité qu'ils ne sont pas des accumulateurs pour eux-mêmes, mais qu'ils ont un but, c'est que toutes les richesses qu'ils gèrent, ils les gèrent selon le Seigneur, de manière à ce que leur accumulation ne devienne pas en elle-même un gaspillage subtil que Dieu condamne tout spécialement, parce qu'en réalité c'est une forme d'avarice. Nous allons nous arrêter là en cette fin de matinée. Nous verrons encore cet après-midi tout un faisceau de questions très très pratiques concernant la gestion des biens, toutes les questions de dette, d'emprunt, etc. Nous allons nous pencher sur ces questions, voir ce que la Bible en dit. Cela doit nous aider à gérer les uns et les autres, vous et moi, de mieux en mieux, ces biens dont Dieu est le propriétaire et dont nous sommes simplement les intendants, les économes. Dieu veuille que nous soyons des gérants qui travaillent de plus en plus à sa gloire. Nous voulons prier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons de ce que le christianisme n'est pas une philosophie abstraite. Nous n'avons pas à faire face simplement à des grandes théories dont on peut discuter pendant des heures sans que cela ne change rien à notre vie. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous aimes et parce que tu es préoccupé par notre quotidien, par notre vie de tous les jours, là où nous exerçons notre métier, ou à la maison, ou en classe. Merci, Seigneur, de ce que ta parole est d'une richesse pratique, parfaitement accessible pour chacun de nos besoins. Nous te bénissons pour ta générosité. Nous te remercions pour tout ce que tu mets à notre disposition. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les dérapages qui ne sont pas à ta gloire dans notre gestion personnelle. Nous avons envie, nous désirons apprendre à mieux gérer pour toi. Seigneur, apprends-nous de plus en plus à ne pas faire de distinction entre les dimensions spirituelles et matérielles de notre vie. Aide-nous afin que sur les clochettes de nos chevaux et sur nos chaudières, nous puissions aussi inscrire en toute bonne conscience, sous ton regard, sainteté à l'Éternel. Tu veux bénir les heures à venir, préparer la rencontre de cet après-midi, nous renouveler en toi selon nos besoins physiques, moraux, spirituels, afin que nous soyons aptes à continuer à écouter ta parole ensemble. C'est dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire que nous t'avons prié.